VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal en RCA. Au moins 6 personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés depuis jeudi à Batangafo dans le nord-est du pays. C'est ce qui ressort de bilan provisoire de MSF, Médecins sans frontières. Seule ONG encore présente dans cette localité, auprès de 30 000 personnes sont privées d'aide humanitaire. Les toutes dernières violences ont commencé la semaine dernière avec le meurtre d'un journalier travaillant pour une ONG. MSF condamne ces attaques à l'encontre des populations civiles et des travailleurs humanitaires. Politique en RDC, la société civile congolaise propose maintenant son propre calendrier électoral et invite les autorités de Kinshasa à faire de même pour sortir le pays du statu quo. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Selon ce chronogramme fictif de la société civile, l'élection présidentielle aurait lieu le 31 décembre avec convocation du corps électoral au 1er octobre 2017 et une campagne électorale du 1er au 30 décembre. Abraham Djamba, coordonnateur d'une plateforme qui regroupe plusieurs organisations congolaises de défense des droits de l'homme, invite la commission électorale à lever les incertitudes ambiantes sur la tenue des élections devant, selon lui, mettre fin à la crise de légitimité institutionnelle que connaît le pays depuis fin 2016. Pour la société civile, cette proposition du calendrier tient compte des délais convenus dans un accord pouvoir-opposition prévoyant la présidentielle fin 2017. Les autorités congolaises ont récemment promis de publier incessamment un calendrier électoral réaliste après avoir recensé plus de 40 millions d'électeurs, soit près de 99% du corps électoral. Le recensement n'a cependant pas encore commencé dans la région troublée du Kasaï. La RDC traverse une crise politique liée au maintien au pouvoir de M. Kabila, dont le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de se représenter.
La France a exhorté le président tchadien Idriss Déby Itno lundi à annoncer prochainement un calendrier pour les élections législatives. Le président Déby avait renvoyé ses élections à 2019, Bagassi Koura.
Les législatives avaient été repoussées sine die en février dernier par le président Déby au pouvoir depuis 1990 et réélu pour un cinquième mandat en avril 2016 à l'issue d'un scrutin contesté. Arguant d'un manque de moyens, le chef de l'État avait déclaré que les élections législatives n'auraient pas lieu avant 2019, suscitant la colère de l'opposition. Les élections législatives sont un moment important dans la vie démocratique. Nous espérons à cet égard que les autorités tchadiennes, dont c'est la responsabilité exclusive, seront en mesure d'annoncer prochainement un calendrier. Déclaration d'une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Allié stratégique de la France dans la lutte contre les djihadistes au Sahel, le Tchad a bouclé vendredi dernier à Paris une opération de séduction auprès des investisseurs qui ont promis, selon lui, quelques 20 milliards de dollars pour relancer son économie, une économie plombée par la fin du mirage pétrolier.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Togo, la coalition de 14 partis d'opposition qui avait organisé les manifestations massives de la semaine dernière a demandé à ses militants et à la population de descendre dans les rues dès aujourd'hui pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé du pouvoir et des réformes constitutionnelles. La coalition a également exhorté ses partisans à se réunir vendredi pour un meeting politique dans le centre de la capitale Lomé et à se rassembler pour de nouvelles marches mercredi 20 et jeudi 21 septembre. En Guinée, les élections locales réclamées par l'opposition et attendues depuis 2005 ne devraient pas avoir lieu d'ici à la fin de l'année. C'est la conclusion à laquelle est parvenue lundi une réunion du comité de suivi du dialogue interguinéen. Des élections locales, les premières depuis 12 ans, auraient dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis lors, les discussions sur le calendrier piétinent malgré les manifestations organisées par l'opposition pour exiger du président Alpha Condé le respect de ces accords.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, la Commission des bons offices demande l'implication du président Ibrahim Boubacar Keïta pour obtenir la libération de certaines personnes qu'elle estime injustement détenues. Selon cette commission, les prisonniers sont innocents et n'ont rien à voir avec les terroristes qui opèrent au Mali. Lors de leur rencontre avec le président malien au palais de Koulouba à Bamako, les membres de cette commission ont mis l'accent non seulement sur les actions de sensibilisation et le retour de l'État dans les localités abandonnées, mais aussi sur la paix, la réconciliation et le vivre ensemble entre les différentes communautés du pays. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La mission de bons offices a été mise en place pour Kidal, le Delta central et la boucle du Niger, là où il y a encore des terroristes qui sévissent. Leur mission est de parler aux Maliens afin d'asseoir une véritable paix dans les cœurs et les esprits. À Koulouba, l'imam Mahmoud Diko, président de la commission de bons offices, était venu faire la restitution de leur forum qui a porté sur la contribution des notabilités traditionnelles, les maîtres coraniques au retour de la paix et à la quiétude dans le Delta central et la boucle du Niger.
Se mettre ensemble, se concerter, parler avec les acteurs qui vivent sur ces lieux-là pour demander eux-mêmes leur impression par rapport à la solution de sortie de crise. Parler aussi de problématiques des écoles coraniques. Vous savez, c'est des milliers voire des millions d'enfants qui sont éduqués, qui sont instruits dans ce secteur, mais en réalité l'État n'a aucun droit de regard sur ce qui se fait. Nous devons penser qu'aujourd'hui, vu la situation sécuritaire dans notre pays, et ce qui se vit à travers le monde même aujourd'hui, il serait responsable en tout cas pour nous d'avoir un regard sur ces enfants.
Au nom de la communauté PIL, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aliou Nouh Diallo, a pris la parole.
C'est remercier le chef de l'État d'avoir accordé tant d'importance aux écoles coraniques, tant d'importance au delta intérieur du Mali, à certains cercles de la région de Ségou, où la violence s'exerce aujourd'hui. Tant qu'on ne résoudra pas la violence qui s'exerce aujourd'hui dans l'Adrar des Iforas, il est extrêmement difficile de résoudre les problèmes du delta intérieur, les problèmes sont liés.
Les recommandations formulées par la mission de bons offices ont été présentées au chef de l'État par leur porte-parole. Maître Hassan Bari. Il a insisté sur la libération de certaines personnes arrêtées.
Nous avons entendu durant ces deux jours beaucoup de personnes, des marabouts, des imams, des simples citoyens qui sont venus nous dire nous avons un nombre important de gens qui sont détenus. Nous souhaiterions que le forum adresse au président de la République une demande. Et celle-là, je vous l'assure, c'est une demande forte venant de la base. Nous voudrions que vous vous impliquiez afin que certains qui sont détenus, dont la situation n'exige pas une incarcération quelconque, que ces individus puissent recouvrir la liberté.
Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotion. Cette initiative du président du Haut Conseil islamique est très heureuse. Et je suis certain qu'elle va participer à l'apaisement que nous recherchons dans l'État central du Mali. Et ce que j'ai vu ici aujourd'hui, tous les fils de cette région, tous les érudits de cette région engagés dans le combat pour la paix, Inch'Allah, cette paix nous l'obtiendrons. Dans les meilleurs délais, dans la suite de mon voyage à Mopti, c'est un heureux paysage. Je remercie les protagonistes et tous ceux qui en ont été les auteurs. Et pour ma part et pour la part du gouvernement, nous demeurons engagés pour la cause de la paix au Mali. Ce qu'ils ont dit, c'est à l'aune des intérêts du Mali, Inch'Allah, et de la paix.
Les participants à cette restitution étaient pour la plupart des notabilités, des maîtres coraniques qui sont tous engagés à maintenir cette dynamique. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Zimbabwe, l'ONG de lutte contre la corruption Global Witness, accuse les autorités zimbabwéennes de détourner les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques, et ce malgré les sanctions de la communauté internationale. Alium Leroy, chargé de campagne à Global Witness, explique.
Le système est tellement opaque, il est difficile de dire où l'argent terminait. Mais en effet, il semblerait que l'argent ait fini principalement dans le budget des forces de sécurité du Zimbabwe. Et c'est tout là le problème. Ces diamants qui permettent de financer les forces de sécurité du Zimbabwe, qui ensuite, elles, commettent des violations des droits de l'homme. Là, on a un problème vis-à-vis de la définition du processus de Kimberley, qui, lui, se borne à dire que les diamants qui ne devraient pas être vendus et qui devraient être mis sous embargo sur le marché international sont des diamants qui proviennent de groupes rebelles qui tentent de mettre fin à un État. Mais là, on a un gouvernement qui mène ces violations des droits de l'homme. Il est important que les entreprises fassent en sorte que les diamants qu'elles achètent ne financent pas des violations de droits de l'homme. Il y a un grand risque puisque nous avons l'élection présidentielle en 2018. Et donc, l'armée a intérêt à ce que la personne qui reste au pouvoir soit le président Mugabe.
Allium Leroy, chargé de campagne à Global Witness, a noté que selon le président Robert Mugabe, le Zimbabwe produit maintenant assez de nourriture pour nourrir sa population. Une première depuis le lancement en 2000 de la réforme agraire qui a exproprié les fermiers blancs.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.